Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Chouette. Écoute, je suis ravi vraiment d'être là. Merci beaucoup pour ton accueil et d'avoir répondu positivement à cette proposition de podcast. En plus, j'étais très touché parce que je suis allé chercher sur Spotify, j'ai pas trouvé d'autres podcasts de toi.
Non, donc, c'est le premier que je fais.
Donc je me suis dit, waouh, petit sentiment d'exclu. Toi aussi, tu dois avoir une petite appréhension peut-être.
Ouais.
Mais je suis vraiment ravi, déjà parce que je grimpe de plus en plus sur Paris. Enfin, tu vois, ces dernières années, ça, ou même en France, partout, c'est vraiment un sport qui s'est vraiment démocratisé très fortement. Et je grimpe de plus en plus et du coup, je suis un petit peu tous les grimpeurs qui m'inspirent. Et en préparant cette interview, j'ai eu les larmes aux yeux plein de fois, tu vois, sur tes prises de parole, sur ton parcours et tout, et j'ai trouvé hyper émouvant, donc je suis très très content d'être là.
Merci à toi. Voilà,
je suis ravi. En plus, comme je te le disais, tu m'as fait voyager. Je suis parti du coup de Paris avec mon scooter faire les petites nationales, traverser les forêts et tout, donc nous y sommes. Voilà.
Nous y sommes, ouais.
Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va ouais. Très bien.
T'es en forme en ce moment, en bonnes vibes, retour de peut-être de vacances d'été, ou au contraire, je sais pas, la saison est chargée. C'est...
Non, c'est retour de vacances, donc bien reposé et surtout pleine d'envie pour l'année à venir. Quoi. Les vacances, ça permet de se poser, de se réinventer, de faire une mise au point, et ça, c'est quand même vraiment trop cool. Donc ouais. J'ai hyper hâte. Okay. De ce qui va venir.
J'ai vu que tu avais fait un petit tour en van, c'est ça ?
Ouais, j'ai acheté mon van il y a un an et avec mon copain, on l'a entièrement aménagé pendant toute l'année. Et là, il était enfin prêt pour l'été et je suis partie 2 mois avec. Donc, okay. C'est vraiment le feu. Je suis trop contente.
Ok, trop cool. Ouais. Trop cool. C'est vraiment le plaisir de... Il y a beaucoup de grimpeurs qui ont des petits vans et qui vont faire justement les tours de montagne.
Ouais, je pense que c'est un peu comme les surfeurs, c'est un peu la même communauté. Tu sais, on aime beaucoup être bouger, en nature.
Faire d'autres spots.
Ouais, ouais. Et puis limiter un peu les déplacements aussi, tu vois, le fait de se poser à un spot, c'est quand même cool de pouvoir y aller à pied le matin. Okay. Et puis quand tu travailles une voie, de ne pas faire tes allers-retours. Ouais. Tu te poses là un mois et voilà.
Ok. Moi, je m'étais noté des petites questions pour tout à l'heure, justement, sur le van et tourner et un peu comment est-ce que tu imagines un peu le suite de ta carrière. Mais comme je te le disais, il y a une question traditionnelle ici où tous les athlètes, toutes et toutes sont passés par là. C'est immanquable. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors oui, heureusement, j'y ai réfléchi un peu et je crois que mon premier souvenir de sport, c'est les cours de ski. Okay. Et je pense que c'est pas un bon souvenir parce que ces cours de ski, c'est quand même assez infâme.
Okay.
alors que j'adore skier, hein, mais je me souviens d'un moment en particulier. Où j'étais en cours avec un mono et tout plein d'autres enfants. Et on avait fait une pause au milieu de la piste pour manger notre goûter.
Okay.
Et en fait, tout allait très vite. Et je sais pas, j'ai galéré à remettre ma moufle, à machin, à enlever ma moufle, à ouvrir mon mars. Il faisait froid, il y avait du brouillard.
Ouais.
Et là, paf, il faut qu'on reparte. Et du coup, je descends, je me dépêche. Et ouais. Je m'aperçois que j'ai laissé mes gants au milieu de la piste, quoi. C'était horrible parce qu'il a fallu... Enfin, moi, j'ai toujours essayé d'être discrète, petite. Je voulais surtout pas qu'on m'entende et tout. Et tout d'un coup, il fallait que j'aille voir le mono, lui dire que j'avais oublié mes gants. Il a dû arrêter tout le monde, faire des grands gestes au mono qui était en haut de la piste pour lui dire « Ramasse les gants de mademoiselle. »
Je me permets.
Vas-y.
Je suis en tailleur, ça me donne trop envie.
Mets-toi à l'aise. Mauvais souvenir, quoi, où tout d'un coup, toute l'attention était portée sur moi et il fallait m'attendre. Et en fait, je faisais chier tout le groupe, quoi. Ouais. Donc voilà.
T'aimais pas avoir l'attention sur toi ?
Ah, j'avais horreur de ça.
Ouais.
Vraiment, je voulais être le plus discrète possible, que je sois invisible presque. Ça m'aurait arrangé.
C'est vrai, si tu pouvais te cacher au fond de la classe, tu l'aurais fait dans une armoire en cours ou...
Ah ouais, devenir une petite souris ou une petite... Okay. J'allais dire une mouche, mais c'est pas très glamour, quoi.
Ok. Et dans les bons comme dans les mauvais moments, tu vois, bon là c'est un peu gênant, effectivement tu retardes le groupe pour faire demi-tour, tu vois, on imagine un peu la scène, ah tiens, bon, c'est Solène, moi allez, tout le groupe est un peu pénalisé, mais il y a aussi les bons moments. Tu vois, ou qui peuvent être, je sais pas, une bonne note à l'école, quelque chose sur lequel t'es doué, tu vois, et avoir l'attention. T'aimais pas même ces moments-là ?
Non, j'aimais pas. Vraiment, c'était ma volonté, c'était vraiment d'être le plus transparente possible.
Ok. Mmh. Ok. Et il y a des choses qui ont influencé ça, hormis peut-être, tu vois, ton agénésie, et. Ou je sais pas, tes parents, tes frères.
Alors je pense que mon agénésie a joué là-dessus très fortement, même si je pense qu'il y a tout plein de gens qui n'ont pas de handicap,
ouais.
qui ont souhaité la même chose étant plus jeune. C'est un peu quand t'es introverti, Mais mon agénésie, pour définir le mot, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est un arrêt de croissance. Et en l'occurrence, là, c'est mon avant-bras droit qui a pâti de cet arrêt de croissance. Donc, je suis née sans main droite. Et je pense que ouais, ça a joué parce que t'es différent et quand t'es petit, tu veux pas être différent, tu veux être comme tout le monde. Ouais. Je pense que c'est très fort. On a besoin d'être dans ce groupe, d'avoir des copains, d'être aimé. Et quand t'es petit, tu fais pas toujours la différence entre l'amour qu'on peut te porter pour la personne que tu es et le fait d'être similaire à tout le monde.
Ouais, mais t'as lu Sapiens? Le bouquin de... je te le recommande, en fait, il explique très bien en fait que cette peur du rejet du groupe, c'est qu'en fait dans la préhistoire, l'être humain, enfin le sapiens était incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Il pouvait pas forcément chasser et il mourait. En fait la principale force de l'être humain, en fait, c'est d'avoir effectivement créé ce groupe social et de travailler ensemble, d'associer les compétences, d'associer les intelligences, de communiquer entre nous et de se regrouper pour devenir plus fort, aller chasser des mammouths, construire des maisons, entretenir le feu, etc., etc. Et que du coup, être exclu du groupe, c'est en fait se retrouver seul. Et en fait, c'est la mort.
Ouais, c'est la mort. Ouais.
Donc, on en a très peur, quoi.
Ouais.
Et donc, tous les enfants ont ça, en fait, veulent appartenir au groupe. T'en as souffert, toi, de pas être dans le groupe ou de pas te sentir dans le groupe?
En fait, j'étais pas exclu du groupe. C'est ça qui est assez incroyable. Après, je saurais jamais si j'ai pas été exclue du groupe parce que justement, je faisais tout pour masquer cette différence.
Ouais.
Mais à un tel point, j'étais hyper forte à ce jeu-là. Hein. C'est-à-dire que c'est arrivé même au lycée de me retrouver dans des classes où les gens ne s'apercevaient pas qu'il me manquait une main, au bout d'un mois, ils captaient et ils avaient un espèce de recul parce qu'on était devenus potes et qu'ils n'avaient pas vu. Donc, tu t'aperçois un mois plus tard que la personne avec qui t'es devenu ami, il lui manque une main, ça doit faire un peu bizarre, quoi.
Ouais. Bah, c'est quand t'apprends un secret sur quelqu'un longtemps, enfin, après un petit délai, tu vois, ça te surprend toujours, quoi.
Mais c'est même pas un secret là, c'est genre s'il te manquait un nez, je le verrais tout de suite, tu vois.
Mais tu faisais comment?
Et ben en fait comment je faisais?
Tu devais être très rusée parce que
j'étais rusée, mais en fait
t'avais
je pense
pas de prothèse,
que j'avais pas de prothèse et en fait je mettais toujours des pulls, des écharpes, j'avais toujours un pull sur moi même quand il faisait 30 degrés, ma mère me voyait partir avec mon pull ou ma veste sous le bras.
Okay.
Et en fait je la mettais sur mon bras comme ça et
tu te faisais un faux bras quoi
comme si je portais toujours une veste mais tu sais un peu à la manière des serveurs là dans les hôtels comme je faisais ça mais H24.
Okay.
Et si je devais aller au tableau j'avais une grande écharpe donc j'avais toujours des écharpes sur moi quelle que soit la température.
Okay.
Et ça me permettait de masquer, de faire une espèce de flou sur mon corps quoi.
Ouais. Et comment tu réagissais quand tes amis l'apprenaient du coup? Parce que ça doit être douloureux, tu vois, d'avoir enfant, tu sais, le regard un peu surpris, quelqu'un un peu hébété.
Ouais, ça n'a pas toujours été évident. Après, je pense que je m'en suis quand même bien sortie. On m'a souvent posé la question et en vrai, mon entourage a toujours été bienveillant.
Ouais.
Mais c'est arrivé quelques fois que une relation change un peu du tout au tout du jour au lendemain donc ça c'est des trucs qui me sont restés tu vois qui sont un peu douloureux, des souvenirs un peu douloureux, mais bon il y en a pas eu 1000 quoi, donc ça
ouais. Ouais.
J'ai su les gérer après.
Non et puis c'est fou. Et est-ce que tu sais les parents essayent souvent de protéger beaucoup leurs enfants sur leurs faiblesses, tu vois. Les parents voient tout de suite les faiblesses des enfants parce que généralement ce sont leurs propres faiblesses à eux qu'ils ont un peu projetées. Toi, en l'occurrence, c'est un handicap physique, tu vois. Comment est-ce que tes parents ils ont essayé de te protéger toi?
Je pense que leur façon de me protéger c'était de me laisser faire.
Okay.
J'ai la chance d'avoir, on est 4 enfants et je suis la 3e, donc j'ai eu des modèles à la maison. Ouais. Et ils m'ont toujours laissé faire. Ils se sont inquiétés sur comment j'allais faire mes lacets et tout ça. Et en fait, j'ai toujours trouvé ma manière de faire.
Ok.
Et après, leur façon à eux aussi, c'était de pas prononcer le mot handicap.
Ok.
Et ça n'a jamais été prononcé sous le toit de mes parents. Ouais. On n'a jamais parlé de handicap.
Ok.
Donc aujourd'hui, avec tout ce que ça implique, le handicap, moins maintenant, mais à l'époque, c'était assez. Assez négatif. Tout de suite, on voit, enfin, quand on dit handicap, on imagine une incapacité à.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, bah, le fait de pas le prononcer, peut-être que ça m'a permis de pas me mettre de limites.
Ouais.
Ou moins de limites.
Ouais, je vois. C'est particulier parce qu'en plus, enfin, en même temps, des fois, ça peut toujours être intéressant pour un enfant de mettre des mots sur quelque chose. Donc, je sais pas si vous avez une autre façon de l'exprimer ou d'en parler, mais c'est vrai que le mot handicap, ça sous-entend tout de suite, effectivement, tu l'as très bien dit, une incapacité, une impossibilité, un frein, un poids,
ouais.
Alors que ça peut être aussi une forme d'opportunité, quoi.
Oui, aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir en parler. Après, c'est marrant parce que pour parler sémantique, très récemment, ils ont renommé l'équipe de France Andy Escalade en para-escalade.
Ouais.
Et je trouve ça hyper chouette. Y en a qui n'étaient pas pour parce que ils m'ont dit, bah ouais, mais on sait pas de quoi on parle. Alors que para, ça vient du grec.
Parallèle. Ouais.
Parallèle. Et je trouve ça trop chouette, en fait. Parce que tout d'un coup, on te met plus dans une espèce de case. On te dit, ok, t'as d'autres capacités. C'est pas les mêmes, mais c'en est d'autres, quoi.
Ouais.
Et c'est un peu comme ça que je vois le handicap. Et sauf que bon, on a beaucoup à faire là-dessus, quoi, en France.
Ouais, c'est clair. Mais je trouve que les choses vont vraiment dans le bon sens. Et j'espère aussi que la grande fête de quartier qu'on organise en 2024, j'espère aussi que on voit qu'il y a des efforts qui sont faits et j'espère que par le sport on puisse ouvrir énormément le discours, certaines réalités. Moi je pense, enfin je sais pas pour toi, mais une des plus grosses claques que j'ai pris en regardant un film ou un documentaire, c'était Rising Phoenix.
Et incroyable, ouais.
Et tu vois, et c'est à ce moment-là que tu comprends que paralympique, c'est pas du tout para ou tu, enfin, certains, plein de gens pensent que encore que c'est paraplégique ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est fou,
tu vois,
ça. Ouais.
Alors que ça veut juste dire les jeux parallèles à l'origine. Enfin, ça apprend beaucoup de choses. Tu vois, c'est en regardant et en s'ouvrant l'esprit que ça apprend beaucoup, quoi. Donc, je suis persuadé que ça va dans le bon sens. Tu vois.
Ouais. Je suis contente déjà que tu le saches parce que c'est quand même. Même les gens qui s'intéressent aux para, aux Jeux paralympiques, ils le savent pas forcément, tu vois, cette histoire de jeux parallèles.
Ok, bah, il faut qu'ils regardent Rising Phoenix, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est pour être un gros fan de documentaires sport, tu vois, comme je te le disais, j'adore regarder Free Solo ou The Don Wall, tu vois, je pense que c'est des films qui m'ont mis des gifles. Je pense que la plus grande émotion que j'ai eue, c'était devant Rising Phoenix, quoi.
En plus, la photographie de ce film est très très belle. Ils ont vraiment fait une recherche sur l'image. Ils ont mis en scène les athlètes et on peut que être subjugué devant ces images.
Ouais, exactement. Il y a une qualité de tournage, de réalisation qui est superbe. Donc chouette. J'imagine quand on fait de l'escalade et ça t'inspire forcément, toi, ce genre de. Ces grands films de sport, ça te donne envie d'en faire. D'ailleurs, tu en as tourné un, il me semble.
J'ai tourné plusieurs petits documentaires, mais plus pour la télévision. J'ai pas encore eu l'opportunité de tourner un film vraiment.
C'est un projet que tu aimerais bien faire ?
C'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais. J'en parlais pas plus tard qu'hier. Je pense qu'il est temps. Parce que j'en ai regardé tellement et je pense qu'il y a vraiment des messages à faire passer. Et c'est vrai que l'image est hyper hyper bien pour ça, quoi.
Bien sûr. Bon, bah je sais qu'il y a quelques membres de l'équipe de Montagne en Seine qui écoutent régulièrement le podcast. Et quand ils verront ton nom, je pense que ça leur donnera envie d'écouter. Et voilà, on fait un petit appel du pied.
Ouais, j'espère avoir un film à proposer, un de ces quatre, à Montagne en Seine. Ce serait quand même super chouette.
C'est vrai que c'est une belle récompense pour un athlète. Ouais, c'est un.
Ouais, je pense.
Un Graal
oui.
ou un.
Tu vois, c'est. Ben presque, parce que c'est des films qui sont tellement inspirants, enfin en tout cas qui ont été sélectionnés pour inspirer tout plein de gens, et j'adore aller à Montagne en Seine et voir tous ces gens, surtout au Grand Rex, tu vois, ouais. Des gens qui ont envie de voyager, qui en sortent avec des étoiles plein les yeux, qui en sortent grandis et surtout motivés pour eux aller faire du sport, aller découvrir, aller dehors, ouais. C'est trop bien quoi.
Ouais, c'est clair. C'est à chaque fois tu ressors avec des ailes, une énergie incroyable. T'y allais sur le dernier là, il y avait avec oui. Y avait le film de Julia, Kevin oui. Roland.
Attends, on est quoi ? C'était quand ? Je suis allée à celui d'hiver.
Avril, ça devait être en avril, mai.
Ah oui, non, j'y suis allée en novembre ou en décembre là.
Ok. Bon,
décembre.
Bon,
ouais.
On s'y recroisera peut-être bientôt alors avec ouais. Avec plaisir. Je refais un switchback sur toi un petit peu petite. On n'a pas du tout parlé de tes notes à l'école. T'étais une bonne élève, pas du tout.
À mon avis.
Je pense que tu devais être une très très bonne élève, mais peut-être que je me trompe complètement. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Je préfère le demander. Mais tu vois, pour avoir rencontré Marie-Amélie, Mathieu Thomas, Arnaud Assoumani aussi, je sais que il y avait un besoin de prouver où ils étaient tous très très bons à l'école ou très très bons dans au moins quelques matières.
Ouais.
Et du coup, je pense que ça devait être un peu pareil
ouais.
pour toi.
T'as vu juste. Et en effet, je pense que ce qui nous relie tous, c'est... Enfin, moi, en tout cas, on m'a dit plus jeune, enfin très jeune, que il faut que t'aies des bonnes notes à l'école parce qu'il va falloir un peu compenser cette différence. Ouais. Aujourd'hui,
on l'a verbalisé comme ça.
Ouais. Ça a été hyper violent.
Ouais.
Et en l'occurrence, c'est un jour où j'ai ramené une mauvaise note. Vraiment pas facile. Et aujourd'hui, j'ai un autre regard là-dessus. Évidemment, c'est pas vrai. Hein, pour ouais. ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que les notes dans la vie. j'ai tout fait comme il fallait. J'ai bien fait mes études. Tout a roulé. J'ai pas redoublé.
Ouais.
Voilà, j'ai suivi un peu la voie des études, études supérieures, le bac avec mention.
Ouais, bravo.
Tout bien comme il faut, quoi.
mais bien joué. Et c'est quoi ta matière préférée ?
Ma matière préférée, j'ai fait sciences de l'ingénieur, donc c'était okay. Tout ce qui était mécanique.
Mmh. Ok.
Ouais.
Trop bien.
Ouais.
Moi, c'est des matières que j'aimais beaucoup. Moi, j'ai fait une école d'ingé, donc tu vois, je suis aussi passé par ces cadres-là. Et bien aimé tenter l'archi, tu vois, j'aime beaucoup la géométrie, les formes, j'aime beaucoup ce qui est symétrique, tu vois, je suis très visuel aussi, mais en école d'ingé, ouais, je peux aussi passer par sciences de mécanique, et je trouve ça qui est cool, enfin ce qui est intéressant, c'est que c'est des matières où tu commences vraiment à apprendre, enfin moi j'avais l'impression de comprendre comment fonctionnent certaines machines, et ouais. de voir une vraie application réelle, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est que c'est pas j'aimais beaucoup les maths aussi, mais c'est très concret quoi. D'ailleurs, ouais. c'est une des matières qui m'a le plus servi pour l'archi après.
OK, ouais, j'imagine. Mm-hmm. Ouais, parce que t'apprends les effets de les leviers, les forces,
matériaux, ouais. les tout ça, ouais. Donc
OK. Bon, hyper intéressant. Mm-hmm. Et le sport dans tout ça ?
Et le sport, j'en faisais pas tellement.
Rien du tout.
J'ai
pas
fait...
tellement, ça veut dire quoi?
En activité extrascolaire, comme je pense beaucoup d'enfants, le mercredi après-midi, j'allais. Qu'est-ce que j'ai fait comme sport? J'ai fait de l'escrime pendant longtemps.
Ok.
Donc ça aussi, c'est un petit subterfuge de te faire orienter vers des sports où t'as pas besoin de tes deux mains.
Ouais.
Donc l'escrime, c'est quand même assez parfait pour ça.
C'est vrai.
Et je pense que j'aimais pas ça. Je me suis retrouvée dans des groupes avec des plus jeunes, des petits énervés de la compétition. Moi, ça m'intéressait pas du tout la compétition.
Okay.
Et y en a même une fois qui a cassé son fleuret sur moi. Il a tellement pointé fort. Je me rappelle plus du vocabulaire. Je sais plus comment on dit, mais
tiré. On dit tiré.
Tiré, ouais, ouais. C'est ce que j'allais dire, mais j'ai eu un doute. Il a tiré tellement fort que ouais, le fleuret s'est cassé. Là, je me suis dit, bon, ils sont un peu énervés dans ce groupe.
Ouais, ça vaut peut-être pas le coup, ouais.
Ouais. Donc, pas trop de sport. Enfin, ouais. Après, le sport aussi, le dimanche, on allait, on sortait avec mes parents et toutes nos vacances, on les passait en montagne à randonner, on faisait du ski. Mais il n'y a pas de sport à proprement parler, comme tu as pu entendre chez d'autres athlètes.
Ouais, bien sûr, il y en a qui commencent très tôt avec déjà beaucoup de volume, mais j'avais cru lire ici et là que, ouais, que tes parents sont grimpeurs.
Oui.
Et qu'ils adorent ça et que, qu'ils ont essayé de t'y mettre aussi.
Alors, c'est. En fait, mes parents, tu veux la petite histoire de mes parents, parce qu'elle est assez rigolote. Ils se sont rencontrés à Fontainebleau.
Okay.
Ils venaient tous les deux, mon père est de Grenoble et ma mère de Angers, et ils sont arrivés sur Paris, ils connaissaient personne, ils sont inscrits au club alpin français qui organisait des sorties à Fontainebleau.
D'ailleurs, pour ceux qui aiment la nature, c'est un super club, c'est un super bon plan pour faire des super activités en nature. Enfin,
Et visiblement faire des rencontres.
Voilà, ça je ne savais pas. Mais effectivement, c'est un bon plan en tout cas. Voilà.
Ouais.
À découvrir. C'est très chouette.
Ouais, ouais. Et puis ça permet de sortir un peu et de rencontrer du monde en fait qui peut avoir les mêmes passions.
Ouais.
Et donc ils se sont rencontrés un dimanche en sortie escalade à Fontainebleau. Et c'est comme ça que est venu. Toute notre petite famille, et c'est une habitude qu'ils ont gardée d'aller tous les dimanches, quel que soit le temps, ils nous amenaient à Fontainebleau. Eux, ils grimpaient, mes frères et sœurs grimpaient, moi aussi au début, et puis après j'ai vite entraîné mon petit frère vers d'autres terrains de jeu, faire des cabanes, parce que je me suis vite rendu compte qu'il commençait à avoir le même niveau que moi. Donc okay. J'étais plus la grande sœur tout d'un coup et je pense que ça m'a un peu dérangée. Donc oui, on allait à Fontainebleau, on grimpouillait plus qu'on grimpait, en tout cas pour ma part. Mes parents ils grimpaient, mais...
Ouais, mais tu crapahitais quand même dans les rochers,
voilà.
Et t'avais cette connexion à la nature quand même.
Donc,
ok, génial.
Mais c'était pas un sport à proprement parler.
Ouais.
Même si je m'en vantais à l'école, hein. Je disais que je faisais de l'escalade, mais bon.
Ouais, c'est le. Je vois très bien, ouais, quand c'est les enfants.
Le style, quoi.
Les enfants qui disent oh, j'ai fait du vélo avec mon père, ce qu'elle.
Ouais.
Non, je vois très bien. Et t'avais la bougeotte quand même, ou t'étais plutôt. Tu disais que t'étais calme, tu vois, que t'essayais pas du tout de faire remarquer. Mais est-ce que c'était contre ta personnalité, tu vois, d'avoir une certaine énergie, et des fois ça arrive, tu vois, des gens qui ont beaucoup beaucoup d'énergie mais qui veulent pas la montrer et qui la réfrènent. Est-ce que c'était ça ou
non? Je pense que de base je suis assez calme. Ouais. Okay. ouais du coup ça me dérangeait pas d'être en forêt, de faire de la contemplation. J'étais une grande rêveuse, je passais mon temps dans mes pensées.
Ok. Tu penses à quoi?
À ma vie rêvée.
C'est vrai?
Ouais. Qu'est-ce que je ferais si j'étais quelqu'un d'autre?
Ok. Et tu voulais être qui?
C'était souvent des rêves de sportive. Je me souviens avoir passé pas mal de temps à penser à si j'étais une skieuse professionnelle.
Ok. Pourquoi le ski?
J'aimais bien la sensation de la glisse.
Ouais.
Mais j'étais ailleurs, quoi.
Ok. Et à aucun moment dans ton parcours, tu entends parler, tu vois, des structures qui peuvent accompagner justement les sportifs paralympiques, ou ça t'intéresse pas, tu vois, si tu rêves de faire du ski, est-ce que tu te dis, je sais pas, il y a une fédération française de ski, est-ce que je peux les contacter, est-ce qu'il y a une équipe de France paralympique?
Alors, c'est... pas du tout. Enfin, en tout cas, j'en ai pas du tout entendu parler dans mon enfance, parce que mes parents étaient pas du tout dans la compétition. Ouais. Et ils nous ont pas du tout poussé, quels que soient les enfants, ils nous ont pas du tout poussé là-dedans.
Okay.
Donc, ça a pas du tout été une question. J'ai jamais envisagé de faire du sport à haut niveau. Jamais.
Mais c'est... tu vois, au-delà de la compète, t'as quand même, tu vois, il y a des structures, Là, je vais rencontrer des garçons qui font du basket fauteuil, tu vois.
Ouais.
Là, tu vois, eux te disent, la structure, c'est le club qui est important parce que c'est le seul endroit où ils peuvent jouer à Paris, tu vois. Et sans cette structure-là, il y a plein de garçons qui pourraient pas, ou de filles qui pourraient pas jouer au basket. Donc, c'était au-delà de, tu vois, du sport de haut niveau, au-delà de la compète. Mm. Juste intégrer une structure pour pouvoir pratiquer un sport encadré avec des gens qui connaissent un peu mieux tes problématiques, quoi.
Ouais, après, tu sais, quand on parle pas de handicap à la maison, on va pas te mettre dans une structure spécialisée.
Ouais.
En fait, et c'est là où peut-être que j'avance sur tes questions futures, mais en fait, moi, ma vie, elle a vraiment commencé quand j'ai enfin mis le mot handicap sur ma différence. Et okay. On parlait de sémantique tout à l'heure, même si je suis très contente aujourd'hui qu'on parle de para-escalade et de tout ça, le fait de mettre un mot handicap, tout de suite, ça m'a propulsée dans d'autres sphères, quoi.
Ouais.
Ça m'a ouvert des portes, alors que, en soi, tu pourrais penser que c'est l'inverse.
Ouais. Parce que ça permet, c'est quoi? Ça permet de mieux communiquer dessus, ça permet de faire de mieux rechercher dessus, de créer plus d'empathie sur ce que tu ressentais,
c'est comment dire,
excuse-moi, ma question n'est pas facile, tu vois.
Non, c'est pas facile, mais je vois ce que tu veux dire, et je me suis longtemps posé la question de pourquoi c'est à ce moment-là que ça a changé les choses pour moi.
Est-ce que c'est en toi, c'est un déclic de dire ok, j'ai quelque chose, enfin j'ai mis un mot sur sur ce que je ressens, en fait, tu vois,
Mais c'est une façon de pas nier ta différence,
ouais,
de pas l'effacer et de mettre un mot aussi lourd de sens sur ta différence. Ça permet de la sublimer, d'en tirer parti et de la mettre en lumière au lieu de l'effacer et de te dire non, je suis comme les autres, c'est que je suis comme les autres. Ben non, en fait.
Ouais. Ok. Et c'est d'arrêter de repousser un peu cette acceptation de soi-même.
Ouais. Ouais, c'est accepter son corps tel qu'il est. Donc, avec ses différences ou pas. Mais.
Et comment il se fait ce déclic? Comment est-ce que tu t'es accepté?
J'ai été aidée. J'ai fait une psychothérapie.
Ouais.
Ça allait pas. J'étais à Paris depuis je sais plus combien de temps. J'ai fait mes études à Strasbourg. Je suis rentrée à Paris et j'ai commencé mon taf d'archi dans une boîte. Après, j'ai lancé ma propre boîte en tant qu'indep. Et en fait, j'étais pas heureuse. Il me manquait un truc. Je savais pas quoi. Et alors que j'avais tout, tout pour être heureuse. J'étais pas bien. Et donc, j'ai commencé une psychothérapie en me disant que ça pourrait m'aider. Et en fait, ça a changé ma vie. Donc après, chacun a sa propre expérience vis-à-vis de ça. Mais moi, ça a vraiment changé ma vie. Et justement, le déclic, c'est que tout de suite, elle m'a parlé de handicap. Moi, j'étais un peu choquée au début. La thérapeute, je me suis dit, elle manque de tact de me parler de handicap alors que c'est pas, ce mot ne vient pas de moi. Et en fait, ça m'a permis de débloquer plein de trucs, quoi.
Ouais. Tu penses qu'elle l'a fait un peu exprès?
Complètement.
Ouais.
Oui. Et d'ailleurs,
c'est un peu dans tes retranchements.
Tout à fait. Et d'ailleurs, elle me l'a dit. Elle me l'a tout de suite dit. Elle a dit, j'utilise volontairement le mot handicap parce que nommons les choses comme elles sont aujourd'hui dans la société. Ce que vous avez, c'est un handicap.
Elle avait pressenti que tu le cachais ou que tu évitais ce mot.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que après, j'ai continué à utiliser ce mot et elle a arrêté. Je pense naturellement, tu vois, parce que.
Elle avait accepté.
Ouais. Puis quand tu me connais, tu te dis pas que je suis handicapée, tu vois. Bon, on dit plus handicapée, mais tu te dis pas que j'ai un handicap, tu te dis autre chose, tu vois, parce qu'il y a rien que je ne puisse pas faire. Enfin, il y a plein de trucs, mais bon, c'est mineur, quoi.
Mais on pourra y revenir après parce que je pense que une des plus belles opportunités de la vie d'avoir un handicap, c'est l'adaptabilité, parce que pour moi, c'est une des plus grandes qualités, tu vois. Parce que dans le monde dans lequel on vit, qui va tellement vite, où on est tous différents, savoir s'adapter, ça n'a pas de prix, en fait. C'est...
Ouais.
S'il y a un truc que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est l'adaptabilité, tu vois. Parce
ouais,
que
ouais,
ouais. le monde va tellement vite. Ouais, exactement, tu vois. Et je pense que j'en parlais beaucoup avec Mathieu Thomas. Je sais pas si tu le connais. C'est un joueur qui fait du, il fait du badminton. Et d'ailleurs, je voulais te parler de lui parce que c'est vraiment marrant que tu parles de cette séance de psychothérapie. Mais, et pourquoi je disais ça? Bon, oui, l'adaptabilité, c'est merveilleux. On en parlait ensemble. Et lui, il me disait, tu sais, nous, nous, les athlètes paralympiques, on a eu deux vies, en fait.
Mmh.
Et tu vois, je lui dis, parce qu'en fait, je lui dis, ouais, tain, c'est marrant, le champion olympique dans ta catégorie, il a 55 ans. Il me dit, oui, parce que nous, on a toujours eu deux vies. On a une première vie. Déjà, il y a une vie, pour ceux qui ont eu des accidents, il y a une vie avant l'accident et une vie après. Et il me dit, il y a aussi la deuxième vie de quand t'acceptes qui tu es.
Ouais, ouais.
Et là, tu renais. Et en fait, bah, si t'acceptes à 35 ans, en fait, à 55 ans, t'en as que 20 dans ta tête.
Ouais, ouais,
parce que tu viens d'accepter ton nouveau corps. Et j'avais trouvé ça magnifique, tu vois, cette
c'est
façon
très,
de
très, très
de
bien
formuler.
Résumé, ouais.
Et cette façon de le formuler et d'expliquer avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sourire, bah ouais, aux Jeux paralympiques, tu trouves des papis, des mamies, parce qu'en fait, c'est des voilà, ils ont eu deux vies, mais en fait, ils sont jeunes dans leur deuxième vie. Et ça m'a ouvert les yeux, tu vois, sur vraiment une façon de voir le monde. Et je pense que on a aussi sûrement deux vies, mais que beaucoup ne vont pas la chercher, cette deuxième vie, tu vois, et se laissent un peu engluer dans cette première, tu vois, dans cette première vie.
Oui, celle qu'on te trace un peu ce que la société te dit qui est bien de faire et qui ne convient pas forcément, quoi.
Ouais. Et combien de temps après ce déclic, cette séance que tu fais avec ta psy, et c'est cool que t'en parles parce que, et c'est cool que tu dises ça a changé ta vie parce que j'en suis convaincu aussi, tu vois.
Oui.
Moi, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il fait pas trop d'introspection, je me dis bon, je sais que ça va pas coller très longtemps des fois.
Oui.
Ouais, tout le monde en a pas besoin, tu vois, mais au moins faire un peu cette recherche introspective, c'est important.
Mais je pense que tout le monde en a besoin, c'est ça le truc, c'est que c'est toujours hyper important de se remettre en question, en fait d'être connecté à soi-même. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette connexion d'emblée. Parce que je pense que tu grandis dans une société qui fait que tu te blindes de plein de trucs qui te conviennent pas forcément. Et au final, tu te retrouves un peu décalé par rapport à toi, tes vrais besoins.
Ouais.
Et oui, j'en croise plein, hein, des gens qui sont en colère. Tu sais, ils ont un truc en eux comme ça qui est bloqué.
Ouais.
Et t'as tellement envie de leur dire, mais va faire un travail sous n'importe quelle forme, c'est pas forcément une psychothérapie, ça peut être plein d'autres choses, de l'hypnothérapie, de après j'ai pas tous les noms, mais il y a plein de moyens qui existent.
Bien
et
sûr.
c'est une telle délivrance.
Ouais, c'est clair. Merci en tout cas, tu vois, merci de mettre des mots aussi dessus et d'être transparente, tu vois, sur ça, parce que
oui, il y en a beaucoup qui se disent psychothérapie égale maladie, égale je suis pas bien.
Exactement,
alors que c'est pas du tout le cas.
Et tu vois, dans le monde du sport, encore plus, tu vois, chez les athlètes, j'aime pas dire le mot valide, tu vois, ça m'insupporte ce mot.
Ouais, malheureusement, je le dis aussi tout le temps, on n'a pas trop trouvé de...
Sur l'autre parallèle, voilà. Sur l'autre parallèle. Mais non, bon, disons les valides, disons qu'on aime pas ce mot-là et qu'on ferait mieux de trouver quelque chose d'autre, mais chez les athlètes valides, tu vois, c'est souvent considéré, même encore aujourd'hui, tu vois, comme quelque chose de négatif, ouais, comme une faiblesse. C'est accepter une faiblesse, de se dire dans la tête, faut muscler aussi un peu des choses et les renforcer, travailler dessus et... Donc ça fait du bien, tu vois. Mais
ouais, alors que quand on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est tellement important et c'est un peu cliché, mais on se rend pas compte de à quel point dans ta tête, enfin t'as fait 70% du boulot, quoi.
Ouais, c'est vrai. Puis ça, tu te rends compte aussi quand tu travailles un peu sur ce qui se passe dans tes pensées, de l'influence que ça a sur ton corps.
Ouais, tout à fait, ouais. sur tes performances.
Ouais.
Si t'es bien avec toi-même et que t'es à l'écoute de toi-même, bah t'as déjà tout gagné.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Et donc comment tu arrives à l'escalade? Comment tu t'y remets
après ce déclic,
qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui changent dans ta vie, tu vois?
Le fait de mettre un mot, ça a changé, ça a fait que je me suis acceptée. Le fait que je m'accepte, ça a fait que j'ai eu moins peur de montrer mon handicap, de montrer mon bras, en fait, visuellement. Donc je faisais des petits tests, j'essayais de me balader dans la rue sans ce fameux gilet toujours posé sur mon bras.
Parce que même à 24, 25 ans, tu te baladais toujours?
Ah, je continuais, bien sûr, ouais.
Ok.
Ouais, ouais. Et j'ai gardé cette habitude encore longtemps après, parce que c'est pas évident, parce que t'as l'impression que les gens te regardent bizarrement et t'es pas forcément prêt à ça. En fait, je me suis vite aperçue que les gens, ils te regardent pas bizarrement. C'est, en fait, ils te regardent de la façon dont toi, tu te regardes.
Ouais.
Donc, si t'es mal à l'aise, les gens, ils vont regarder parce qu'ils vont sentir qu'il y a un truc bizarre. Aujourd'hui, je suis hyper à l'aise, je me balade dans la rue et je vois tout de suite que...
Ouais.
S'il y a un regard, c'est par curiosité, parce qu'ils se sont dit, ah, il y a un truc qui est, tu vois, qui est pas... Pareil, ils savent pas forcément dire quoi. Ils voient que c'est la main, puis après ils se détournent et ils s'en fichent. Parce que moi, je m'en fiche.
Ouais.
Et ça a été un super apprentissage de comprendre que les autres, le regard des autres est le reflet du regard que tu te portes sur toi-même.
Ça
a pas mal débloqué de choses. Et du coup, pour en revenir à quand je me suis remise à l'escalade, parce qu'à l'adolescence, j'ai arrêté de suivre mes parents à Fontainebleau. C'était un peu chiant, tu vois.
Ouais.
Et puis après, je suis partie faire mes études et tout. Donc en fait, j'ai arrêté 10 ans d'aller crapahuter. Et donc, il y a eu cette psychothérapie. Et en parallèle, il y avait cette nouvelle salle Arcos qui venait d'ouvrir à Nation.
J'habitais en face.
Ah ouais?
Mais littéralement en face. Bon, maintenant c'est mon frère qui vit dans l'appartement.
Génial.
Mais j'étais même pas au courant. Un jour, je suis descendu de chez moi. Il y avait une queue de 500 personnes littéralement devant chez moi. Je suis l'immeuble en face. Tu peux pas.
Ah mais génial. Et t'es pas devenu champion du monde en habitant en face de Carcos Nation.
Non. Mais à l'époque, je faisais beaucoup de triathlon. Donc c'était vraiment mon sport. Mais je m'y suis mis. Je grimpe. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai un très mauvais équilibre, je pense, de base.
Ouais.
Et j'adore. Puis l'ambiance, tout.
C'est marrant, peut-être qu'on s'est croisés.
Croisés, ouais. Exactement.
Et parce que tout le monde me parlait de cette nouvelle salle. Et tu sais, l'escalade, ça avait toujours été mon sport un peu pour crâner, tu vois. Donc j'avais toujours raconté ça à l'école et en fait personne ne faisait d'escalade à l'époque.
Ouais.
Et là tout d'un coup tout le monde me dit ah ouais je suis allée grimper, je m'y suis mis et tout. J'étais en mode mais comment ça vous mettez tous à l'escalade, c'est quoi ce délire? Et donc un peu pour aller voir et maintenant que j'acceptais de montrer ma main, parce que tu te caches pas quand t'es en escalade, ouais. Tu peux pas faire ça en t-shirt à manches longues en cachant ta main, ça ne marche pas.
Tu peux pas mettre d'écharpe là, c'est sûr.
Tu peux pas mettre d'écharpe parce que sinon tu t'étrangles. Donc je suis allée voir et en fait je suis tombée, je suis tombée amoureuse du sport. Mais c'était mon choix cette fois, c'était plus le sport familial que j'allais faire le dimanche avec mes parents. Là, c'était moi qui ai fait la démarche de rentrer dans cette salle et de faire l'escalade, donc ça a été très très différent. Et assez vite, j'ai commencé à y aller très très régulièrement et j'ai fait des rencontres qui ont fait qu'aujourd'hui je suis là où je suis.
Ouais. Tu saurais raconter cette première fois ? Où tu mets les pieds à Arcos Nation et je te demande ça parce que il y a une ambiance très particulière dans une salle d'escalade.
Ouais.
Il y a beaucoup de bienveillance. En même temps, ça grouille de personnes et en même temps, c'est très calme parce que tout le monde est assez focus. Il y a une odeur particulière, que c'est un peu de la magnésie, un peu de la sueur aussi, tu vois.
L'odeur de vieux chaussons.
Disons-le. Maintenant, ça te semble hyper naturel, tu vois, j'imagine. Mais est-ce que tu te souviens de cette première émotion? Enfin, des premières fois, tu vois, de ce que tu ressens,
Au risque de te décevoir, je pense que ça a pas dû être très, je pense que ça a dû être très éprouvant pour moi.
Mais c'est pour ça que je te demande.
Parce que je m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de cette première fois où je suis rentrée à Arcos Nation. Vraiment aucun. Par contre, je peux te raconter la séance qui a fait que j'ai eu le déclic pour faire de la compétition. Ça, je m'en souviens très bien.
Ouais.
Mais cette première séance, je n'ai aucun souvenir. Je ne sais même pas avec qui j'étais.
Okay.
Donc, je pense que ça a été... Oui, que ça a été un vrai challenge et une vraie épreuve pour moi parce que mon esprit l'a effacé.
Ok. C'est
donc dingue. Voilà, j'avais fait pas mal de chemin, mais visiblement, ça m'a mis une petite claque dans la figure quand même, quoi.
Ah ouais, bien sûr. Mais c'est hyper courageux et je peux comprendre aussi, tu vois. Tu disais que, en parlant de l'escrime, que on t'avait poussé un peu vers un sport dans lequel ton handicap était beaucoup moins une gêne. Tu t'affrontes à un sport qui, pour le coup,
C'est pas du tout logique d'aller faire de l'escalade quand il te manque une main.
Je trouve ça génial, tu vois, de contrer les patterns comme ça, tu vois, c'est dingue.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu te souviens, voilà, si on oublie cette première séance, tu vois, mais tu te souviens de tes premières émotions, de qu'est-ce qui te plaît dans la salle d'escalade? Est-ce que c'est, je sais pas, la camaraderie? Est-ce que c'est le challenge avec toi-même? Qui est quand même, pour le coup, ça c'est un truc qu'on a tous face à un mur d'escalade, c'est peu importe le niveau des autres, peu importe les conseils qu'on te donne, peu importe la qualité de tes chaussons, c'est toi avec ta voix et tu te débrouilles.
C'est un peu de tout ça, hein.
Ouais.
Déjà, il y a une ambiance, il faut le dire, hein, parce que ça joue beaucoup et aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le bloc, notamment grâce à ça. C'est que c'est hyper cool, t'es avec tes potes, tu t'encourages, tu te donnes les méthodes, tout le monde est bienveillant, c'est quand même une chouette communauté, il y a des super chouettes valeurs dans l'escalade. Les salles sont belles, l'ambiance est cool. Après, tu vas manger un morceau, boire une petite bière pour débriefer de ta séance, enfin, c'est quand même hyper cool, quoi.
Ouais.
Et après, d'un point de vue personnel, c'est un challenge avec toi-même. C'est pas un sport d'équipe, donc c'est très personnel.
Ouais.
Et c'est toi face au mur et le mur, il va pas te juger, quoi.
C'est vrai.
Les prises, elles sont là. Tu les tiens, tu les tiens pas. Tu fais le mouvement, tu fais pas le mouvement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je trouve ça génial à chaque fois d'entendre ah non mais je suis trop petit. Et là, t'as un gamin de 8 ans qui arrive et qui te fait le bloc, qui te le survole et tu dis bon, ok, en fait, les excuses, en fait, il n'y a pas d'excuses.
Ouais.
Elles sont que dans ta tête et c'est ça qui est génial.
Ouais. C'est vrai que ça te fait déconstruire. Enfin, moi, je sais que c'est vachement intellectuel pour moi l'escalade, c'est de comprendre comment je vais poser mes pieds, comment je vais passer mon corps. J'essaie de visualiser et au début, j'étais vraiment nul, quoi. J'étais pas du tout fait pour ce sport. Et c'est qu'avec le temps que ça vient, tu vois, petit à petit, parce que il y a ce travail un peu introspectif et de casser les barrières, quoi. D'arrêter de dire que je suis nul, déjà.
Oui, d'arrêter de dire que t'es pas fait pour ce sport, en fait.
Exactement.
Je crois que naturellement, les gamins, ils aiment tous grimper dans les arbres.
Ouais.
Enfin, pas tous, hein, mais globalement, on l'a quasiment tous fait. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse. C'est juste, il y a un moment où tu t'es dit que c'était pas pour toi. C'est chouette de voir ton corps apprendre aussi. Tu vas te dire, ah non, ça c'est impossible, jamais je le ferai. Et puis en fait, il y a un petit déclic et tu le fais, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même... Je pense qu'il y a peu de sports comme ça où tu vois une vraie évolution de ton apprentissage.
Ouais.
Tu vois, sur des mouvements, en fait, t'arrêtes pas de... C'est un peu comme la carte, je sais plus dans quel jeu, là, tu débloques une partie de la carte. Il y a un jeu vidéo comme ça.
Je suis pas très jeu vidéo, je t'avoue.
Je pense qu'il y en a qui verront. Mais c'est un peu ça, c'est comme si t'avais une maxi-carte de mouvement.
où t'as des personnages et souvent tu dois aller faire la guerre à d'autres,
oui, voilà,
tu vois, et
ça.
Tu vas conquérir. Ok. Ouais, ouais, ouais. J'ai joué à ces jeux.
Ah ouais, bon, ça m'étonnait aussi. Oui, c'est un peu comme si t'avais une maxi carte de mouvement, de degré de mouvement dans ton corps et que.
Tout est noir au début.
Voilà, tout est noir et puis peu à peu tu vas aller te battre contre tes préjugés et débloquer une partie de la carte, quoi.
Ok. Mais ouais, c'est vrai, c'est une super belle analogie, je trouve.
Belle, je sais pas, mais.
et cette première séance où le déclic de la compétition arrive?
C'est une rencontre. Alors, c'est assez rigolo. En fait, je suis à Arcos Nation à ce moment-là. Je grimpe et il y a un mec qui grimpe avec un t-shirt équipe de France, enfin, avec marqué France derrière. Et lui, il grimpait avec une prothèse de jambe. Mmh. En fait, il s'appelle.
C'est Julien.
C'est Julien Gasque, exactement. Ouais. Et Julien, maintenant on est bons potes, hein. Mais il est arrivé avec ses grands sabots et il a mis les pieds dans le plat. Il m'a dit, je t'ai regardé grimper. J'ai vu qu'il te manquait une main. C'est marrant. J'ai une copine. Elle est américaine et elle est double championne du monde. Et elle grimpe vachement mieux que toi. Tu sais, il me dit ça comme ça.
Ok,
merci, qu'est-ce que je dois comprendre? Et bon, après, il m'a branché sur la compétition, il m'a dit ça te dirait pas d'aller faire les championnats de France. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en effet, il y avait des compétitions de para-escalade que j'ignorais. Enfin, je me suis pas posé la question, encore une fois. Et donc, j'ai fait des recherches. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque là-dessus. Je regarde cette Maureen Beck, l'américaine, et donc je regarde des vidéos. Je me dis, mais en fait, je peux carrément le faire. Mmh. Et là, il y a pareil, une partie des barrières qui s'est un peu envolée. Et là, j'ai contacté les bonnes personnes pour commencer à m'entraîner et commencer un truc un peu sérieux. Je suis rentrée dans un club. En fait, ça a été hyper rapide. C'est juste que j'avais pas cet objectif. En fait, le fait d'avoir. Maureen Beck en objectif, et ben ça m'a permis d'avoir un chemin, tu vois,
ouais.
Vers quoi me déplacer.
Une sorte de rôle modèle ou de
exactement.
De phare, tu vois, au milieu de l'océan et de savoir vers quelle direction tu dois aller.
Exactement, de savoir qu'il y a des choses qui sont possibles alors que je m'étais pas posé la question de où est-ce que je pouvais aller, quoi.
C'est comme si dans ta carte de jeu vidéo, d'un seul coup, tu avais un point qui s'était allumé
et
de l'autre
que maintenant
côté.
Il faut y aller en défrichant le reste.
Ok, trop bien, trop trop bien.
Ouais.
Et tu cherches à rencontrer d'autres grimpeuses, d'autres grimpeurs.
Alors je cherche à la rencontrer, en ayant en tête de rentrer en équipe de France pour aller faire les compétitions internationales. Okay. Voilà, c'est un peu mon seul moyen de la rencontrer. Je lui ai envoyé des messages, elle a été hyper cool parce qu'elle m'a répondu. Je lui avais posé plein de questions sur des histoires de stabilité d'épaule, qu'est-ce qu'elle utilisait pour pas se faire mal et tout ça, quoi.
Ouais, de matériel ou. Et c'est cool qu'elle ait répondu.
C'est hyper cool.
Ouais.
C'est hyper cool. Aujourd'hui, c'est un truc que je veux me tenir à ça. C'est continuer à répondre à toutes ces personnes qui sont pareilles dans le flou, comme je l'ai été, et pouvoir répondre à ces gens-là.
Ok. Et il se passe combien de temps entre justement cette première porte d'escalade, l'équipe de France, les premiers titres? Ça va très vite.
Ça va hyper vite. Comment ça s'est passé? En fait, il y avait tellement de gens qui passaient à Arcos Nation que.
J'y allais tout le temps.
Ouais, moi j'y allais tout le temps. Je voulais m'entraîner. J'avais fait des recherches. J'étais allée à un festival. Il me semble, je sais plus si c'est Montagne en Seine, ou un autre, où il y avait un fascicule avec les coordonnées d'une boîte qui s'appelait La Fabrique Verticale. Qui sont deux grimpeurs, Laurence Guyon et Olivier Broussoulou, et qui font du coaching à distance. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais aucune notion qui coachait en escalade, je connaissais rien, je partais de zéro.
Ouais.
Donc, je les ai contactés et on a décidé de travailler ensemble. Et donc, ils m'ont envoyé une planification, donc ça a été hyper cool. Donc en fait, avec la planification, j'allais de plus en plus à la salle encore, et j'ai croisé un gars qui bosse au 8 Assure, le club où je suis actuellement. Et en fait, c'est lui qui est venu me voir en me disant ah ben, j'ai entendu parler de toi, parce que ça avait fini par un peu se savoir que je voulais faire de la compétition. Il m'a proposé de rentrer dans le club. Ouais. Et donc là, j'ai eu tout l'encadrement nécessaire qui m'a permis. Enfin, j'avais tout d'un coup toute une équipe qui croyait aussi en mon projet, quoi. J'étais pas ouais. toute seule avec à avoir fait appel, à devoir passer plein de coups de fil et pas trop savoir ouais. où aller. Et là, tout d'un coup, il y avait une équipe qui était en mode ouais, carrément, tu vas aller au championnat de France.
Il y avait d'autres para-athlètes et tout.
Non, j'étais la seule okay. dans ce club.
Ok.
À l'époque, maintenant c'est plus le cas. On a recruté ramené. Plein de gens.
Mais trop bien. Mais non, mais tu vois à quel point ça ouvre des voies en fait de oui. d'avoir un rôle modèle ou de. Enfin, c'est dingue, tu vois. Et je trouve c'est trop chouette.
Ouais, c'est hyper cool.
Parce que c'est un peu. Mais d'ailleurs, c'est un peu une des. Dans... Désolé, je reparle du film The Dawn Wall, tu vois. Mais c'est un peu le. La vraie leçon du film, c'est que c'était une voie impossible avant qu'il l'ait fait. Ils la font en une semaine ou je sais plus, 7-8 jours. Maintenant, je crois que un an après, il y a quelqu'un qui le faisait en 3 jours. 6 mois encore après, il y a quelqu'un qui le faisait en 36 heures. Et que maintenant, je crois que les mecs, enfin, il y en a certains qui le font en moins d'une journée, quoi. Enfin, tu vois.
Ouais.
Tu vois, c'est que une fois que c'est possible, ça explose on peut, donc, Trop bien. Et ça t'inquiétait pas d'être la seule, et au contraire ça te rassurait d'avoir des gens qui croient en toi, peu importe qui sont en mesure de t'accompagner ou pas. Au moins c'était des gens qui croyaient en toi et qui allaient te pousser jusqu'au bout, quoi.
Ouais, c'est d'ailleurs ça c'est un autre truc qui a été un vrai apprentissage, c'est de savoir bien s'entourer. Et en fait, à ce moment-là, je crois que il y a quelque chose en moi qui a fait que j'ai su bien m'entourer, faire appel aux bonnes personnes pour justement mener à bien ce projet, des gens qui croient en ton projet et qui te mettent pas des bâtons dans les roues. Ouais. Et donc ouais, ça a été hyper vite. Je pense quelques mois plus tard, je sais pas quand est-ce que j'ai fait la rencontre de Julien. Je pense que c'est en septembre 2017 et les championnats de France étaient en mars ou avril 2018.
Wow.
Donc ouais, moins de 6 mois, ouais, 6 mois plus tard.
Ouais.
Et bon, me suis sélectionnée pour l'équipe de France. Et le sélectionnaire, d'ailleurs, je sais pas s'il a fait une blague ou pas, mais il m'a dit bon, c'est bien, tu rentres en équipe de France, c'est bien, mais ça manque un peu de bras, tout ça. Et parce qu'en fait, il voulait dire que j'avais, il manquait encore de biceps, tu vois, et de musculature, et que bah, je commençais tout juste. Donc, clairement, je n'avais pas du tout le physique que j'ai aujourd'hui. Et, mais bon, la formulation est hyper drôle, quand même.
Mais il n'a pas fait exprès ?
Je pense pas.
Mais j'imagine qu'on doit te les faire, le coup de main, le...
Ah ouais, moi j'adore mettre les gens mal à l'aise avec ça. Bah oui, parce que c'est comme quand t'es avec quelqu'un de malvoyant et tu dis « Ah ouais, donc tu vois là-bas Ah non, merde. » Mais en vrai, c'est hyper marrant. Enfin, tu vois, mais j'adore quand on me dit « Ah, tu veux un coup de main ?» Je rigole, je dis « Oui, c'est le cas de le dire. » Les gens se sentent hyper mal. Faut pas, hein. Si je fais la blague, généralement, c'est que c'est ok.
C'était avec Mathieu Thomas, avec qui je m'étais vachement bien entendu, justement. Qui lui m'est expliqué dans le podcast, il me disait mais tu sais entre nous, mais on s'envoie des tartines, s'envoie des tartines, et parce que du coup il est dans un gros club avec beaucoup de joueurs de para badminton, ils sont vraiment nombreux, il est en équipe de France depuis longtemps et tout, il disait mais tu nous écouterais,
tu
trouverais
choquée.
Infâme et tu
bien
serais
sûr,
choqué
ouais.
quoi. Et il m'avait donné quelques exemples et j'avais dit ah ouais quand même. Il me dit mais tu vois ça, bah effectivement en fait c'est tout dépend du feeling avec la personne, tu vois, et si tu le sens bien tu le fais, si tu le sens pas bien tu le fais pas, et c'est là toute notre sensibilité et on est des êtres humains et puis voilà, on a le droit d'être sensible et dire oui à certaines personnes et non à d'autres, enfin tu vois.
Ouais.
Mais OK. Mais du coup je suis peu surpris, tu vois, de que tu me dises que tu prennes avec beaucoup d'autodérision de mauvais jeu de mots, quoi. Mais...
Bah en fait, et je pense que c'est très vrai dans le sport, tous ceux qui sont dans le sport en compétition à haut niveau, et bah c'est qu'il y a eu cette deuxième vie, il y a eu ce déclic, et il y a eu cette acceptation, donc tu peux faire des blagues dessus. Ouais. Parce que tu peux avoir de l'autodérision. Avant, je pense que c'est pas la même. Tu prends pas un... tu vois, un jeune qui est pas hyper à l'aise avec ça, tu fais pas des blagues, quoi.
Ouais, ouais.
T'évites.
Ouais. Mais bien sûr, mais tu fais bien de le dire, tu vois. Mais je sais plus où j'étais dans mes questions, mais en tout cas, ce que je retiens de ton histoire, c'est qu'il faut montrer des, faut vraiment montrer des voies, tu vois. Donc si les auditeurs nous écoutent, tu vois, et vous avez des amis qui ont envie de se mettre au sport et qui n'osent pas parce qu'ils ont potentiellement un handicap ou quelque chose les dérange, bah montrez-leur qu'il y a des structures, montrez-leur que qu'ils peuvent s'y mettre et montrez-leur des champions qui font le sport qui les fait rêver et peut-être que ça peut créer des déclics aussi comme ça. Enfin, j'imagine qu'il y a mille façons de créer des déclics, mais
ouais, mais je pense que le modèle, comme tu disais avant, est hyper important et c'est aussi pour ça que j'essaie de communiquer un max parce que t'as plein de messages à faire passer mais n'empêche le fait, tu vois, avec les réseaux, de pouvoir voir en visuel, ok, elle arrive à faire ça,
ouais.
Je pense que c'est hyper important et c'est le retour que j'ai d'ailleurs assez régulièrement de gens qui me disent je suis tombée sur ton profil, trop bien, ça m'a donné hyper envie d'essayer escalade, j'ai toujours eu envie, j'avais jamais osé avant, quoi.
Ouais.
Et ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires.
Bah carrément, ouais, j'imagine. Félicitations, trop bien. Et peut-être juste en parlant de bras là, désolé, je reviens là-dessus, mais je m'étais noté comme question que est-ce que t'as besoin,
si je mangeais du chocolat.
Ah là là, là là, c'est bon. Heureusement que j'ai la référence. Hein. Du coup, tu dois pas beaucoup en manger. Voilà. Moi, j'ai plus le droit d'en manger, figure-toi. Donc, tu vois, je suis pas très bien placé pour te faire une vanne. Ouais. Ouais, j'ai des soucis de reins. Je fais souvent des calculs rénaux à répétition. Et je dois bientôt avoir une grosse opération justement pour soigner ça.
Ah ouais.
Et le chocolat est l'aliment qui provoque énormément de calculs rénaux.
Ah mais c'est horrible, c'est le pire des handicaps là, de ne pas pouvoir manger de chocolat.
Bah,
non, rigole, mais c'est pas très rigolo pour toi.
Je suis triste, mais on est, tu vois, chacun. Moi, j'ai beaucoup parlé de handicap invisible ces derniers temps, et notamment beaucoup avec encore Mathieu. Salut Mathieu, je t'enverrai l'épisode pour que tu l'écoutes parce qu'on te fait tellement de coucou. Mais parce que Mathieu m'a amené justement à faire une intervention, notamment en entreprise, sur le handicap invisible.
Ouais.
Parce que pour son histoire, c'est que lui, il a eu une tumeur cancéreuse au niveau de la jambe ou je crois au niveau du bassin. Ou du dos, une tumeur cancéreuse, on pouvait le retirer, mais une seule il fallait couper le nerf. Et donc, ça lui a paralysé toute la jambe.
Ouais.
Donc, si tu veux, quand tu vois un grand gaillard comme lui, qui doit faire pas loin d'un mètre 90, hyper bien sapé, joli sourire, un joli bagou et tout, et que quand il marche maintenant, avec tout le travail qu'il a fait, ça se voit presque plus. Et ben lui, il communique énormément sur le handicap invisible, tu vois.
Ouais.
Et moi, je me dis, bah voilà, chacun est comme il est. Et moi, j'ai un organe qui fait des caprices. Voilà, on va l'opérer, on va essayer de le soigner. Et puis au pire, bah c'est pas grave, je continuerai à vivre comme ça.
Ouais.
Ça se voit pas, mais oui, je suis pas bien foutu de l'intérieur, quoi, tu vois.
Et c'est le handicap invisible, il touche tout le monde parce qu'on a tous des handicaps en nous. Nous, on est partie immergée de l'iceberg, mais. Donc c'est facile pour nous de communiquer dessus. Les gens, ils nous prêtent une oreille attentive parce que ça se voit. Mais en vrai, ça touche tout le monde, tu vois. Quelqu'un qui a une timidité très, très forte, bah, ça va l'handicaper à fond dans sa vie. Il y a mille trucs, quoi.
Ouais, puis une personne qui a la maladie de Crohn, quand dans le bus, tu le vois pas, elle est peut-être en train de faire une crise avec l'estomac en feu, tu vois, une personne qui est sourde, on dit pas ça, pardon, malentendant, ou quelqu'un qui, tu vois, il y en a tellement,
Il y en a beaucoup qui sont aussi, vraiment liés à la personne dans la tête, des barrières que tu te mets, mais tout ça, c'est des handicaps.
Ouais. C'est vrai, aussi. Ouais. Et, 12 millions en France. 12 millions de personnes en situation de handicap et 90%, de ce que je me souviens, entre 80 et 90%, c'est souvent invisible.
Mmh.
Voilà, donc il faut rester hyper, hyper conscient, quoi.
Ouais.
Bon, si je me suis trompé sur les chiffres, les auditeurs, dites-le moi. Mais je tiens ça de la petite conférence que j'avais travaillé à l'époque. Et ça me touche, quoi. Tu vois, c'est puissant, quoi.
C'est ta question à la base, ça concernait le chocolat.
Ah oui, effectivement. Non, mais je voulais rentrer un peu dans de la technique et je me suis dit, je sais pas si c'est maladroit ou pas de le faire, mais je me suis demandé si tu faisais de la musculation pour compenser pour muscler ton biceps droit et ton triceps droit et ton épaule droite.
Je l'ai toujours pas trouvé, mon biceps droit. Non, en fait, quand j'ai commencé l'entraînement, ça a été un des principaux objectifs.
Okay.
Je sais pas si on dit un des principaux objectifs.
Objectif, donc un des principaux.
Un des, ok. Ouais. Et oui, donc c'était de récupérer cette différence de musculature que j'ai entre la droite et la gauche, qui est assez qui était assez prononcée.
Qui doit jouer sur le dos aussi.
Qui joue sur le dos, qui provoque des douleurs et tout ça. Et donc on a essayé, j'ai essayé de me muscler avec plein d'exos spécifiques. Au bout de 2 ans, je me suis rendue à l'évidence, ça ne marchait pas. Et en fait, il y a un ostéo qui m'a dit, mais tu sais que parfois, les agénésies, elles viennent avec une atrophie des muscles. C'est pas seulement un arrêt de croissance, c'est aussi le fait que tes muscles, ils n'ont pas grandi pareil, quoi. Ça a fait tilt, en fait, c'est ça. C'est que j'ai les muscles qui seront jamais aussi développés des deux côtés. Et d'ailleurs, les autres personnes de ma catégorie, pour la plupart, ils ont la même musculature à droite qu'à gauche, tu vois, de naissance. Okay. Moi, de naissance, c'était déjà un peu moins développé à droite. Okay. Donc voilà, j'ai un peu abandonné ça. Par contre, ce que je fais, c'est des exercices de renforcement, parce que tes muscles qui travaillent pas pareil. Et de base, oui, de la musculature, mais générale, quoi.
Ok. Donc ouais, c'est beaucoup de gainage, j'imagine, du travail en isostatique, peut-être, ou...
Ça peut avoir mille...
Des assouplissements aussi
Ouais, il y a assouplissement, il y a de la mobilité, il y a du gainage, il y a de la force sur les doigts aussi. On fait des trucs bizarres, là, tu sais, où les gens, ils se suspendent sur des petits morceaux de bois, là, tout petit. Ça je fais. En fait, j'adapte tous les exercices, mais ouais, il y a plein d'exercices.
Ok. Et tu dois tout réinventer.
Je dois tout adapter.
Ouais.
Après, c'est pas quand tu fais ça toute ta vie, c'est pas c'est pas une montagne, quoi.
Ouais. Non, mais c'est passionnant, tu vois. Est-ce que tu as eu envie de t'entraîner encore plus, justement, avec tes concurrentes aujourd'hui, pour peut-être voir encore plus comment, vu que vous adaptez tout et que vous transformez le sport pour vous, vous pouvez pas copier. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais tu peux pas copier quelqu'un.
Non. Et même entre nous, tu vois, on a tous des spécificités différentes. C'est pas forcément du même côté, ça a pas la même longueur, nos bras n'ont pas la même forme.
Ouais.
Et du coup, tout est très différent. Mais oui, ça m'a donné envie de continuer à m'entraîner. Aujourd'hui, là, les 3 championnats que j'ai faits, je les ai remportés.
Ouais.
Et du coup, ça me place un peu sur la plus haute marche au niveau mondial dans ma catégorie. Et en fait,
c'est pas un peu tu es sur la plus haute marche mondiale de ta catégorie. Mais faut pas le minimiser, quoi.
Non, et c'est hyper chouette. Et d'un autre côté,
3 fois de suite en plus.
3 fois de suite, ouais.
J'avais plus, parce que tu sais, dans les années, quand tu regardes, quand tu fais tes recherches, forcément, il y avait une année blanche avec le Covid.
Oui, et puis en plus, les championnats du monde, c'est une année sur 2.
Exactement. Donc, je savais plus exactement. Ok.
Donc ouais, 3 années consécutives. Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi la suite?
Ouais.
Tu vois, t'arrives au bout de la carte, donc ce petit point que t'avais illuminé, t'y es, et maintenant, tu fais quoi? Parce que il reste encore plein à découvrir. Donc c'est hyper chouette parce que j'ai carte blanche. C'est pas évident parce que j'ai carte blanche et que je sais pas si c'est possible ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que je fais attention à toujours bien m'entourer de gens qui croient en mes capacités, qui sont persuadés que que je peux aller encore bien plus haut, bien plus fort. Et, ouais. Et ça, c'est cool parce que sans eux, aujourd'hui, tu stagnes, quoi.
Ouais.
Et c'est ça. Mais même dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est important d'avoir des gens dans ton entourage qui te poussent vers le haut et pas qui te font stagner dans ta vie, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que c'est aussi important d'avoir des gens qui eux ont hyper confiance en eux, qui vont pas spécialement t'aider, tu vois, mais qui eux ont hyper confiance en eux et toi qui te donnes envie de les suivre.
Mmh.
Et il y a aussi d'autres personnes qui voient ton potentiel à toi.
Mmh.
Et qui essayent de le pousser au maximum, tu vois. Et le mélange des deux, et en tout cas sur moi, c'est, tu vois, c'est ce qui me
ouais,
fait.
Ouais, assez explosif, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais tu fais bien de le dire. Effectivement, l'entourage qui joue à tout. Et ça fait écho aussi à un podcast que j'avais fait avec un brand manager qui sponsorise des athlètes. Et je lui pose la question, quels sont tes critères quand tu choisis un athlète et que tu vas le sponsoriser? Coucou Clément de Puma. Il me disait, le premier critère numéro un, c'est l'entourage, en fait. Mm. Parce que un athlète mal entouré, c'est ingérable. Il y a trop de pression
ouais,
à gérer.
Ouais, ça m'étonne pas.
Il y a trop de pression à gérer. Si en plus on vient mettre de l'argent dedans, ça va pas le faire.
Hein. Ouais.
Sur le long terme, peut-être qu'à sur le court terme, il peut y avoir des coups d'éclat, ça peut bien se passer, mais sur le long terme, ça paiera jamais, quoi.
Ouais, donc, ça m'étonne pas du tout.
Et toi, t'as fait ce cap il y a pas très longtemps d'arrêter ton job parce que.
Alors, pas tout à fait.
Ah, zut. Ok.
Non, pas tout à fait.
Tu vas m'expliquer, mais ouais. T'as ce premier titre de championne du monde. Tu dois être dingue. Te dire waouh.
Wow. Ouais, c'était une expérience assez incroyable.
Et après, tu te dis, bon, il faut que je me mette plus à fond.
Et ben, en fait, la première année, t'arrives, t'es l'outsider. On attend un peu rien de toi, tu vois.
Ouais.
Et ben en fait, l'année suivante, comme il y avait les JO, ils ont décalé les championnats du monde. Normalement, c'était les années paires. Et c'est arrivé en même temps que les JO qui sont aussi années paires.
D'accord, ok.
C'est pour ça que ça fait 2018-2019 et après 2021.
Ok, tout s'explique.
Donc en fait, ouais, okay. Tout s'explique. L'année suivante, en fait, t'as la pression parce que t'es plus l'outsider. Tu deviens la personne à abattre.
On va voir si c'était de la chance la première
voilà,
fois.
Voilà, exactement. Donc, les gens t'attendent au tournant. Il y a plein de gens qui sont enthousiasmés pour tes résultats, donc t'as pas envie de les décevoir. Toi, tu te mets à avoir des espérances ouais. aussi assez hautes, des objectifs assez hauts. Et donc, ouais, non, je crois que mon deuxième championnat du monde, c'était assez stressant.
Ouais, la boule au ventre et. Ok.
Ouais, c'était à Briançon. Ça devait être au Japon et ça a été à Briançon.
Ok. Et ouais, il y a plusieurs compétitions d'escalade à Briançon.
Oui. Chaque année, ils organisent le mondial de l'escalade et ils organisent une étape de Coupe du Monde.
Donc, ouais, c'est ça. Ouais.
Pour les valides. Avant, pour les paras. Cette année, ça n'a pas eu lieu parce que pour des histoires de nombre de disciplines qu'ils ont pris. Cette année, ils ont décidé de prendre la vitesse. C'était la première année.
Ok.
Donc, on attend. On aimerait bien qu'ils nous reprennent.
Bien
après,
sûr.
C'est toujours des histoires. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Mais ils ont toujours été hyper impliqués, en tout cas, dans le paraclimbing à Briançon.
Okay. Bon, bah cool. Mm. On fait bien de les féliciter.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un très 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 beau coin et juste à côté. L'école les plus dures du Tour de France est mythique, donc allez-y, le Galibier, l'Izoard, des montagnes qui ont marqué aussi l'histoire et puis c'est une terre de sport qu'on adore tous. D'ailleurs, tant mieux que tu parles de vitesse et de choix de sport parce que j'ai fait mes recherches. Il y avait une question que je voulais te poser, je vais te l'expliquer. C'est dans l'escalade, du coup, est devenu un sport olympique.
Ouais.
Avec un choix qui a été compliqué.
Ouais.
Effectivement, puisqu'il y a trois disciplines entre le bloc, la vitesse
Et la voix.
Et la voix.
Ça s'appelle difficulté.
Exactement, j'étais en train de chercher difficulté. La Fédération internationale d'escalade a fait un choix compliqué qui était de réunir les trois sports en un seul. Est-ce que toi, du coup, ça t'a donné aussi peut-être envie de te dire, ok, est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye la vitesse également pour si jamais tu vois, enfin j'ai pas réussi à trouver tu vois toutes les infos que je voulais sur la question des trois sports, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois.
Ce qu'il en est, c'est que pour 2024 ils vont changer le format et en fait ils sortent la vitesse. Ils font un...
Là, tu parles
officiellement.
Sur les Jeux Olympiques ou sur les Jeux Paralympiques?
Il n'y a pas aux Jeux Paralympiques.
Ok, donc c'est exactement là où je voulais t'emmener, tu vois. Ça sera peut-être le cas un jour.
Ça sera, oui, c'est dans les papiers, on espère.
Ok. Vas-y, excuse-moi pour si tu as tout le panel, toutes les infos que j'ai pas, je suis très curieux de savoir ça.
Du coup, oui, pour les JO, la vitesse sera une discipline à part. Ouais. Et après, il y aura un combiné bloc et diff.
D'accord, ok. Donc ils sont revenus en arrière. Donc ça, effectivement, toi, j'imagine, tu espères fortement que ça arrive au JO. Le plus rapidement. Au Jeux Paralympiques, le plus rapidement possible. Est-ce que du coup, ça t'a donné envie d'essayer de la vitesse ou pas du tout?
Pas du tout. J'ai déjà essayé la voie de vitesse.
Ouais.
Non, clairement, c'est pas spécialement une discipline qui m'attire, quoi.
Ok. Ok.
Si c'est hyper impressionnant et je comprends qu'il y ait un tel engouement et que ça soit, c'est hyper visuel, c'est hyper facile à comprendre pour quelqu'un qui grimpe pas du tout.
Ouais.
Mais c'est assez éloigné de l'essence même de l'escalade.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça a rien à voir. C'est vrai que moi, avant que ça arrive, avant qu'on en parle justement pour les qualifications françaises au jeu, je connaissais pas du tout quoi. Donc, et c'est vrai que c'est particulier, c'est très particulier. Trop bien. Et t'as évoqué que ta carte blanche, tu peux faire tous les projets que tu veux, que effectivement t'as exploré, t'es allé au sommet de ta discipline. C'est quoi tes rêves maintenant?
C'est de continuer à repousser ses limites parce que en fait t'arrives jamais au sommet de ta discipline. T'arrives au sommet de ta discipline à un moment donné avec des compétiteurs donnés si on parle de compétition, mais en dehors de ça, l'escalade et autres, il y a pas que la compétition. Et tu vois, on va parler de cotation. J'imagine que tu vois ce que c'est.
Très bien, ouais.
Mais du coup,
ta meilleure voix, j'ai cru voir que c'était une 7B.
Ouais.
Ok. Impressionnant, putain.
Et en fait, c'est une échelle. Ça, c'est très souvent remis en question parce que ça prend une place parfois un peu démesurée, les cotations, parce qu'il y en a qui passent leur temps à parler de ça, à dire est-ce que ça vaut vraiment cette cotation-là ça.
Chaque voix est unique finalement, donc.
Mais d'un autre côté, c'est bien d'avoir une échelle, parce qu'on reste humain et en fait, tu peux grimper juste pour le plaisir, mais dans ces cas-là, tu y vas les yeux fermés, tu prends pas de topo et tu sais jamais dans quoi tu te lances. Là, t'as une échelle. Quand tu regardes ton topo en bas de ta voix, tu sais si tu vas te lancer au casse-pipe ou si c'est grimpe plaisir et c'est cool, tu vois. Ouais. Donc ça a le mérite d'exister. Et ce que je trouve très bien, c'est que en para, c'est parallèle, mais d'un autre côté, on est sur la même échelle de cotation. Donc, au final, tu vois, ça te ramène et ça fait un espèce de comparatif qui est assez cool, tu vois, et qui permet aux gens qui, justement, ont leur deux bras, deux jambes, de se dire « Ah, elle arrive à faire cette baie en falaise. Ok, je me botte les fesses, quoi. Il n'y a pas d'excuse. »
Mais trop bien. Donc, le premier rêve, c'est déjà d'aller au-dessus de cette baie, j'imagine.
Ouais.
Est-ce que t'en as d'autres, tu vois, sportivement, dans la compétition, ça peut être aussi professionnellement, artistiquement, qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce que t'as envie de...
Alors, il y a plusieurs choses. Sportivement, évidemment, c'est d'aller chercher plus loin dans la cotation, trouver une voie et un bloc qui me conviennent et repousser ces limites qu'on dessine. Et après, c'est pouvoir un jour faire les Jeux Paralympiques. Ça, clairement, c'est un objectif, quoi.
Ouais.
Mais ça ne dépend pas que de moi. Il faut que ça soit inscrit. Et ça, c'est encore en discussion pour 2028. Voilà. Et sinon, professionnellement, j'aimerais bien me professionnaliser là-dedans, enfin dans le sport.
Ouais.
Dans le sens où, pour repousser les limites, en fait, t'as besoin de vachement de temps. Ouais. C'est un métier, quoi.
Ouais.
Être athlète, c'est un métier. Aujourd'hui, en France, le sport a quand même pas la même notoriété que, par exemple, aux États-Unis.
Mmh.
Et donc tu me posais la question sur mon travail tout à l'heure, je continue à bosser, j'ai toujours certains projets et c'est eux qui me font vivre essentiellement, même si j'ai des sponsors que je remercie parce que grâce à eux ça me permet de me dégager quand même une bonne moitié de mon temps pour pouvoir m'entraîner et puis continuer dans cette voie là quoi.
Okay.
Sans eux il faudrait que je bosse full time et en fait on parle pas du tout la même chose.
Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça la principale étape, effectivement, pour être à 100%, c'est pouvoir soit avoir des sponsors ou des projets qui sont rémunérateurs d'une façon ou d'une autre, quoi.
Ouais.
Ok. C'est pour ça que je te parlais de films, documentaires ou de...
Voilà, ouais.
C'est un rêve un jour de...
Ouais, c'est un rêve. J'aimerais bien... tu vois, là, j'évoquais le... une mouvance vers le Briançonnais incessamment sous peu. Et l'idée, c'est de me trouver un projet. J'aimerais bien me trouver une voie en 7C. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis convaincue que c'est réalisable pour moi. Mmh. Mais par contre, il va falloir trouver la voie parce que toutes ne vont pas convenir. Mmh. Donc il va y avoir un vrai travail de recherche de la voix qui pourrait, enfin, dont je pourrais faire tous les mouvements, où je serais pas limitée par mon handicap, essayer d'enchaîner cette voix. Et okay. J'aimerais bien que ce process-là soit filmé.
Ouais, toute la recherche et toute l'étude en amont. Ça serait super intéressant, ouais.
Mais voilà, donc c'est un projet, c'est vraiment encore, à l'état projet, j'ai pas d'idée de cadreur ou de monteur. D'ailleurs, s'il y en a qui sont motivés par le projet.
J'en connais. je connais des gens géniaux. On crée beaucoup de contenu, nous. N'hésite pas.
Ok, c'est cool.
Et j'avais rencontré Evrard Vandenbaum. Je sais pas si tu vois. C'est un monsieur qui, pendant 15 ans, a suivi les alpinistes et les photographiait et les filmait. Et c'était vraiment son métier. Et il était considéré comme la pointure de son métier, en fait. Vraiment, en France, un des meilleurs photographes et cadreurs pour les alpinistes.
J'ai probablement dû voir certaines de ces images.
Ouais, exactement. Et on sait rarement qu'il est là parce que c'est lui qui tient la caméra. Mais c'est très impressionnant. Donc, je n'hésite pas. Si t'as besoin un petit peu de,
okay, cool.
j'ai pas le réseau le plus expert du monde, mais j'ai quand même quelques connaissances. Film. Est-ce que j'ai une question là qui m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'il y a un record entre paragrimpeurs justement de la voie la plus difficile montée?
Tu veux dire toutes catégories confondues?
Ouais, toutes catégories confondues ou juste dans ta catégorie ou est-ce que c'est quelque chose que vous suivez?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont vraiment hyper impressionnants. Toutes catégories confondues, je pense que c'est ceux qui sont amputés jambes qui détiennent le record. Ouais. Donc, je pense à Thierry Delarue, qui est un Français, qui a remporté les derniers championnats du monde, les deux derniers. Ouais, les deux derniers. Et Urco Carmona, qui était champion du monde avant que Thierry arrive.
Okay.
Lui, il est espagnol et eux, je pense qu'ils ont fait 8B en falaise.
Ouais.
Urco a une jambe et Thierry, lui, il a une prothèse. Mmh. Donc voilà, c'est des perfs qui sont vraiment incroyables. Après, il y a Nicolas Moineau, là, qui a fait 7C+, lui qui est malvoyant,
okay.
Qui ne voit pas du tout. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui vient tout juste de sortir sur Epic TV, sur Nico. Ça, c'est hyper impressionnant. Et après, il y en a d'autres, des malvoyants, c'est vraiment bluffant, quoi.
Ouais, ok. Hyper intéressant, ouais. Et dans ta catégorie, tu sais pas?
Dans ma catégorie, c'est moi qui détient le...
je voulais t'amener là, parce que j'avais pas réussi à trouver, tu vois, l'information, ok.
Ouais.
Ok, c'est dingue. Est-ce que ça peut être validé au Guinness des records ou tu sais ou pas ce type de...
Aucune idée. Je me suis jamais posé la question.
J'ai regardé, ça coûte une blinde de déposer Guinness des records. D'ailleurs, on regardait quand même, on se marrait avec des amis en se disant quand même que Guinness, une marque de bière, avait quand même fait en termes de brand content ou de...
Ouais, c'est assez incroyable.
De goodies, tu vois. Ils en ont fait un business à part, tu vois. Mais ils ont réussi à coller à de la performance, quand même, les records.
Oui. Il y a des trucs...
Il y a des records qui sont moyennement de l'ordre de la performance, mais tous les... Enfin, la majorité des records sportifs, ils sont quand même inscrits. Une marque de bière, quoi. C'est quand même assez fun, quoi. Qu'on peut mentionner. Donc ouais, tu sais pas si ça peut être homologué d'une certaine façon.
Aucune idée. Franchement,
J'irai voir.
Après, c'est un peu compliqué parce que les cotations, tu vois, elles vont pas parler à tout le monde. Alors que un record de vitesse, un record de temps, un record c'est unique. On parle d'une échelle qui est universelle, que tout le monde peut quantifier et appréhender, alors que les cotations en escalade, déjà, elles varient d'un pays à l'autre, alors... c'est pas le même...
Je vois. Ça varie d'un pays à l'autre, ça, je savais pas du tout.
Mais le système de mesure n'est pas le même. Après, la difficulté en elle-même reste pareil. Ouais. Donc, t'as les équivalences, t'as des tableaux d'équivalence. Mais par exemple, aux États-Unis, tu vas voir des V9, V9.2. Chez nous, c'est A, enfin, c'est 5A, 5B, 5C.
Ouais, je vois. Ok, très clair. Je savais pas ça pour les États-Unis. Ok, tu m'apprends un truc.
Mais il y a d'autres, enfin, je crois que l'Angleterre, c'est encore différent.
Ouais, ok. Bon, j'ai jamais grimpé en dehors de notre sol français. Si, j'ai fait des vies à faire à ta, mais je me souviens, j'avais pas regardé, j'avais pas fait attention.
Ouais, ils les cotent pas pareil, les vies à faire à ta.
Ok. L'heure tourne vachement. On a été super bavard, et c'est cool, c'est ce que j'aime. Mais j'ai des petites questions quand même, un petit peu de la fin, que j'aime bien poser. On peut y répondre un peu du tac au tac, tu vois.
Ok.
Si t'as envie de les creuser, on peut les creuser. Et dis-moi si t'es pressé, on accélère. Mais la première question que je me suis posée, c'était c'est quoi ta voix préférée?
Ma voix préférée?
Ouais. Ou tes spots préférés?
C'est une bonne question. J'aurais du mal à te répondre du tac au tac comme ça. Dans le Briançonnais, ça regorge de falaises hyper chouettes. Mais j'ai pas une voix préférée.
Ouais, ok.
Je pense déjà que j'ai pas passé assez de temps en falaise. Je fais beaucoup de blocs. Donc, difficile de répondre à la question.
Ok. Peut-être ça peut être ton bloc préféré.
Mon bloc préféré. Mais c'est un peu bizarre parce que, en fait, quand tu grimpes, t'essayes de chercher, tu vois, une finalité, de réussir un challenge.
Et puis après, tu le mets derrière toi.
Tu le mets derrière toi, tu le grimpes pas tous les week-ends, quoi.
Ouais,
ou alors, c'est tes voix de chauffe, tu vois, mais c'est pas non plus tes voix préférées.
Mais c'est un peu ce que je me disais, mais je me suis dit, tiens, je vais quand même lui demander.
voir ce qu'il répond.
Non, mais tu vois, par exemple, tu vois, je sais pas, un cycliste peut avoir sa course préférée.
Oui, oui, oui.
Tu peux avoir ton stade préféré, tu peux avoir, tu vois... Les joueurs de tennis, souvent, ils ont une bête noire, mais ils ont aussi une bête blanche, tu vois, quelqu'un avec qui ça marche trop, tu vois. Mais...
Si je devais répondre, je pense que ce serait plutôt un circuit d'escalade à Fontainebleau. Et je pense que mon circuit d'escalade, c'est le circuit bleu à Roche aux Sabots. Je pense que c'est un de mes préférés, j'aime bien tous les mouvements qu'il y a dedans, je le refais toujours avec plaisir.
Ok, voilà. Roche aux Sabots, je vous le note pour la prochaine fois.
Et brossez vos prises si vous y allez.
Pourquoi,
petit message. Non, parce qu'on met de la magnésie et tu sais, ça reste sur le rocher et souvent on s'en va et ça reste.
Ouais, du coup, ça
abîme un peu le rocher. Essuyer les pieds aussi, c'est hyper important. pour pas patiner les prises. Voilà, c'est le petit message.
Sinon, on pourra plus, peut-être plus grimper dans 10 ans.
Voilà.
Ça ressemble à quoi, une très bonne journée avec toi?
Ça ressemble à... ça commence par un bon petit déj. Et déjà, il faut qu'il fasse beau. C'est une très bonne journée, ouais. Tu vas te réveiller dans un super spot et puis tu sais que tu vas grimper à un endroit trop cool. Tu fais ton projet et le soir, tu vas trinquer avec tes potes pour fêter ça avec une bonne bière artisanale du coin où tu es. Ça, c'est une bonne journée.
Ok, ça me va. C'est simple, c'est authentique. Ça marche très bien. Ton plus beau souvenir de compétition?
Mon plus beau souvenir, je sais pas.
Tu siffles.
Non, écoute, là dernièrement, je crois, la dernière Coupe du Monde en date, là, c'était début juillet à Villars, en Suisse. Mmh. Et franchement, je suis arrivée devant cette voie, j'ai vu la partie haute et j'ai vu ses prises. Parce que, tu sais, c'est souvent un peu découpé. Ouais. Et je vois la partie haute et les prises qui étaient trop belles, qui donnaient hyper envie, qui avaient vraiment l'air d'être une voie de Coupe du Monde, quoi.
Ouais, ouais.
Et je voulais absolument aller les toucher, tu vois, aller grimper sur cette partie du mur, mais elle était tout là-haut, donc fallait bien que j'arrive là-haut.
Ouais.
Et en fait, je me suis fait tellement plaisir à grimper cette partie de voie qui, je pense, n'avait pas spécialement été ouverte pour ma catégorie. À mon avis, les ouvreurs, ils ont dû se dire...
Vous avez des ouvreurs spécifiques?
Les ouvreurs, ah. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent... Enfin, il faut qu'ils aient un répertoire gestuel énorme, qu'ils savent vraiment bien ouvrir, ouais. Et qu'ils puissent se mettre en situation...
Vas-y, termine, et après, juste après, on expliquera ce que c'est qu'un ouvreur.
Ouais. Du coup, les ouvreurs, je ne sais pas s'ils avaient pensé... Que ma catégorie aille aussi haut. Et il y avait beaucoup de prises qui, en soi, vues d'en bas, tout le monde s'est dit, mais jamais elle ira là-haut. Et en fait, je me suis battue, et franchement, j'ai topé la voie, je suis arrivée en haut, et j'étais tellement contente.
Ok.
Ouais, je pense que c'est mon meilleur souvenir de compétition.
Ok, trop bien, trop trop bien.
Et du coup, les ouvreurs, qu'est-ce que c'est?
Les ouvreurs, donc c'est un métier très intéressant d'ailleurs, qui consiste à créer des voies en salle. Et donc, ce sont ceux qui vont visser les prises, les dévisser, qui vont imaginer la voie, l'imaginer et la réaliser.
Exactement.
Oui. Et donc, c'est un vrai métier.
C'est un vrai métier et les salles sont toujours à la recherche d'ouvreurs d'ailleurs. Il y a des formations maintenant qui existent. Pour la compétition, c'est d'autant plus difficile que il faut pouvoir visser les voies dans le niveau donné, quoi.
Ouais, effectivement, ouais. Mais on m'a recommandé plusieurs fois d'aller interviewer un ouvreur ou une ouvreuse en me disant c'est sûr que ça doit être des gens qui doivent avoir un mindset très particulier, tu vois.
Ouais.
D'imaginer, de penser ça pour les autres, c'est assez fort.
Ouais.
Donc, j'y pense. Est-ce que tu as un porte-bonheur ou un gris-gris?
Non.
Ok. Est-ce que tu as une routine pour faire baisser un peu la pression, oublier un peu le stress?
Oui, alors il y a une routine d'échauffement. Mmh. Et ça, franchement, c'est hyper important parce que du coup, tu arrives à ta compétition et tu te mets dans ta routine d'échauffement, tu as l'habitude et ça te met dedans.
Ouais.
Et après, j'essuie bien mes chaussons avant même pour un bloc à l'extérieur ou une voie à l'extérieur, quand je sens que ça y est, j'essuie bien mes chaussons et c'est parti, quoi. Je laisse plus de place à, tu sais, la petite zipette, le chausson, la poussière qui est sous le chausson qui t'empêche de charger un pied ou...
Ouais, je vois. Ok, donc tout dans la routine. Et est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau?
Je pense le ski.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Marie Bochet, tu l'as rencontrée?
Oui, je la connais pas, non, j'ai jamais rencontré, mais oui, je suis son parcours.
Faut que vous croisiez.
En tout cas, je la suis sur les réseaux. Je suis assez fan.
Tu vas à Briançon, tu vas te rapprocher du Beaufortin, donc tu devrais plus être très loin de chez elle. Et ça pourra se faire. Bah écoute, c'est vraiment, je te le souhaite du fond du cœur. C'est une femme géniale. On s'est recroisé en plus dans les locaux de Paris 2024 il y a pas très longtemps alors qu'on s'était on s'était vu il y a très longtemps, et c'est elle qui m'a reconnu en me faisant un grand coucou, et c'est vraiment une fille géniale, quoi. Femme géniale, donc je te souhaite vraiment de croiser son chemin. Voilà. Et je crois qu'elle a le record du nombre de médailles.
Oui, c'est la c'est la plus c'est la femme la plus enfin la personne la plus médaillée en France aujourd'hui, même valide, pas valide.
Ouais, exactement. Tout, les deux jeux confondus. Donc, comme ça,
deux jeux confondus, c'est plus joliment dit.
C'est comme ça, ça met d'accord tout le monde. Est-ce que si tu pouvais parler à la Solène de 18 ans qui vient de passer le bac avec mention, mais qui est toujours, qui se cache toujours, qui n'a pas encore déployé ses ailes, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là?
Bah, c'est difficile d'avoir un message. Tu vois, tu as envie de dire bah, déploie tes ailes, crois en tes rêves, suis tes envies, écoute-toi. Mais d'un autre côté, ça répond tellement à un cheminement intérieur qui parfois peut prendre du temps, tu vois, il faut l'accepter, que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Du coup, difficile à dire, mais ouais, de continuer, de s'écouter. Peut-être que si je m'étais écoutée plus tôt, je serais arrivée plus tôt à ma passion, quoi.
Ok. Écoute-toi.
Écoute-toi, ouais.
C'est beau, c'est cool. J'arrive à l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu offrirais à tout le monde, n'importe qui, pour se sentir mieux? Allez bien. Si tu pouvais offrir un livre ou faire regarder un film à la terre entière, qu'est-ce que tu ferais, lequel tu choisirais? C'est pas facile. Hein,
c'est pas facile comme mission.
Des fois, avant, je disais ouais, est-ce que t'as un livre ou un film à me recommander? Mais là, je me dis tiens, si on voyait le truc un peu plus loin. La première question que j'avais en tête, c'était si tu peux offrir un livre à tout le monde sur Terre, tu t'offrirais lequel?
La première réponse qui me vient en tête, c'est le livre de Stéphanie Baudet, qui est une grimpeuse, qui s'appelle À la verticale de soi. Je pense que le titre en dit long. C'est une femme qui a fait de la compétition, qui a fait du haut niveau, qui est très forte, et qui parle un peu de sa relation, son histoire, sa relation avec l'escalade, et le fait d'être en communion avec soi-même. C'est vraiment un très beau livre, très bien écrit, et qui m'a enseigné plein de petits trucs.
Trop bien. Bah écoute, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Je le connais pas du tout, tu vois, alors que pourtant j'adore, comme je te disais, les différents contenus sur l'escalade. Donc
recommande pour ta reco. À 200%. C'est une femme qui écrit vraiment très très bien et qui est hyper sensible. Et qui a une vision très poétique de l'escalade et du rocher.
Trop chouette.
Ouais.
Bah écoute, merci pour la recommandation. Et la toute dernière question que je pose, c'est quelle est l'extraterrienne et l'extraterrien que tu me recommandes d'aller interviewer, justement pour parler de tout, de rien, mais avec une petite touche de sport.
Alors l'extraterrienne que je te recommanderais, c'est une grimpeuse qui s'appelle Manon Illy.
Okay.
Moi qui m'inspire beaucoup dans sa façon de gérer sa grimpe, donc elle est en équipe de France de DIF, et à côté de ça elle grimpe beaucoup en falaise, elle bosse sur un 9A, et c'est vraiment une femme qui est hyper hyper douce, qui est hyper altruiste.
Okay.
Tu vois, à côté de ça, elle est infirmière et pour rien au monde, elle lâcherait son job. Et franchement, c'est hyper beau, quoi. Ouais, c'est vraiment respect.
Okay.
Donc voilà.
Trop chouette. Et un extraterrien, peut-être?
Un extraterrien, ça dépend, tu voulais un ouvreur ou pas. Là, j'avais pensé à Arthur Delic, qui est un photographe.
Ok.
Qui super fait bonne idée. Beaucoup de photos d'escalade. Et après, il fait beaucoup de d'autres photos. Il va ouais sur des reportages parfois politiques et tout okay. ça. Mais oui, il a beaucoup fait de photos de grimpe. Et il a une sensibilité qui me touche beaucoup aussi. Il a et ses photos, moi, je les trouve juste magnifiques. C'est pas évident de rendre le sport comme ça.
Ouais.
Et lui, il y arrive vraiment avec brio. Donc, okay. Et puis c'est quelqu'un de très intéressant. Voilà.
Trop bien. Bah écoute, merci pour tes deux chaleureuses recommandations que je connais pas du tout. Donc je vais en découvrir. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette conversation.
Aussi.
C'était très enrichissant. Tu vois, il y a des moments où j'ai eu beaucoup d'émotions et tout. Donc merci pour ta transparence et les bonnes énergies que tu dégages. Vraiment, ça fait du bien.
Merci à toi.
Donc j'espère que j'aurais pas été trop maladroit. J'espère que qu'on aura dit des bonnes choses, qu'on aura quand même un peu rigolé, qu'on ira boire un chocolat chaud, un de ces quatre ensemble quand même.
Tu disais pas que tu pouvais plus.
Mais si, mais normalement après mon opération, j'aurais peut-être le droit encore. Donc faut que ça se passe bien. Mais si j'ai droit, mais à vraiment très très petite dose quoi. Donc voilà. Merci infiniment.
Et ben merci voilà. à toi. C'était un vrai plaisir.
Comme on dit chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc, à très bientôt.
À très bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.